Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Troussel, nous allons parler des élections régionales. Vous soutenez bien sûr Claude Bartolone, qui vous a précédé à la présidence du département, qui souhaite devenir le prochain président du conseil régional. D'abord un mot sur les inscriptions électorales, Stéphane Troussel. Il est encore possible de s'inscrire jusqu'à mercredi pour pouvoir voter les 6 et 13 décembre. Vous incitez dans votre département les jeunes à se rendre dans leur mairie et vérifier qu'ils sont bien inscrits pour pouvoir voter.
Les jeunes et les moins jeunes, tous les citoyens en âge de voter qui ont 18 ans et qui, pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas encore inscrits, ont cette année de manière tout à fait exceptionnelle, et je dois dire que c'est grâce notamment à la mobilisation d'une parlementaire de socialiste de Seine-Saint-Denis, Elisabeth Pochon, qu'un texte a été adopté, parce qu'on sait bien que, notamment alors que ces élections se déroulent à une période qui est inhabituelle, le mois de décembre, si rien n'avait été fait, eh bien, seuls les électeurs inscrits avant le mois de décembre de l'année dernière auraient pu participer. Et donc de manière tout à fait exceptionnelle, mais ça, je crois que ça sera annonciateur aussi d'évolution sur les modalités d'inscription. Eh bien, on a encore 2 jours pour aller s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir, dans 2 mois, participer à ces élections régionales.
Alors, un sondage réalisé récemment a montré que 35% des Français ne savaient pas qu'il y avait des élections régionales. Ça vous désespère ?
C'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte, et moi je sais que dans notre action, dans notre activité militante quotidienne, justement nous démultiplions les initiatives, d'abord pour informer, c'est une date inhabituelle, le mois de décembre, et puis l'élection régionale, parce qu'elle concerne un territoire très vaste, où en particulier en Île-de-France, l'identification à la région est peut-être moins grande que dans des territoires où ça a plus de sens pour un certain nombre d'habitants. Eh bien il faut effectivement multiplier les informations sur ces élections, le contenu des politiques publiques qui sont menées, la date de ces élections, les enjeux de cette élection, pour faire percevoir que c'est de la vie quotidienne des habitants dont il s'agit.
Alors chaque parti politique présente une tête de liste, et puis il y a des têtes de liste par département. Moi-même, j'avais pas tout à fait compris les choses ainsi. La tête de liste du département de la Seine-Saint-Denis, c'est Claude Bartolone, qui est également le candidat à la présidence de la région.
Le candidat à la présidence de la région, il est, selon ce mode de scrutin, candidat sur une des sections départementales pour la région Île-de-France. Et donc oui, Claude Bartolone sera notre tête de liste départementale, et lorsque, à l'issue du deuxième tour, et si la gauche est majoritaire, il sera notre candidat à la présidence de la région.
Le président sortant, Jean-Paul Huchon, est issu des Yvelines. C'est important, je dirais symboliquement, qu'un président de conseil régional soit issu de la Seine-Saint-Denis.
En tout cas, vous imaginez bien que pour l'élu, le militant, le citoyen de la Seine-Saint-Denis que je suis, et compte tenu de ma proximité avec Claude Bartolone, c'est pour moi une chance, un atout pour notre département, notre territoire, ses habitants. Mais je crois que ce qui surtout fait l'intérêt de la candidature de Claude Bartolone, c'est à la fois sa grande connaissance de ce territoire de l'Île-de-France tout entière, je crois qu'il incarne aussi bien ce qu'est une forme de diversité des parcours des citoyens de cette région, et puis une énergie et une volonté justement de faire que, quels que soient nos parcours, quels que soient les territoires, quelle que soit la diversité de nos origines, de nos milieux économiques, sociaux, eh bien on a vocation à bien vivre ensemble.
Stéphane Troussel, on a été un peu surpris tout de même de la façon dont Claude Bartolone est devenu candidat. Il n'y a pas eu de primaire. Après ce qu'on a pu lire, sa candidature aurait été décidée en haut lieu à l'Élysée. Pourquoi c'est lui qui a été choisi pour affronter Valérie Pécresse ? C'est que Jean-Paul Huchon a démérité ?
Non, je crois que la région et la majorité de gauche depuis plusieurs années maintenant a un excellent bilan. En cette rentrée, les citoyens de la région Île-de-France peuvent bénéficier du pass Navigo unique à 70 euros. C'est le bilan de Jean-Paul Huchon et de la gauche rassemblée. Les inaugurations de tramways prolongés, de métros, de chantiers en matière de transport, c'est le bilan de Jean-Paul Huchon et de la majorité de la gauche rassemblée. Mais en même temps, dans les discussions, dans la volonté d'incarner une nouvelle étape, il fallait rassembler l'ensemble des socialistes. Et par son parcours, par son histoire, par ce qu'il incarne, y compris au niveau national, Claude Bartolone est apparu aux yeux des uns et des autres comme celui déjà qui pouvait permettre le rassemblement de tous les socialistes. Et c'est la condition, la première étape au rassemblement de toute la gauche et des écologistes.
Alors quelles sont les qualités de Claude Bartolone pour diriger une région aussi vaste que l'Île-de-France? Il a dirigé la Seine-Saint-Denis. Quelle qualité il faut? Il faut être un manager?
Il faut être un combattant. Et ce qui, justement, caractérise Claude Bartolone, c'est qu'il est un combattant. Il est un combattant pour nos territoires. Aucun obstacle ne l'empêche de se mobiliser, de défendre le territoire dont il est élu à chaque fois. Quelles que soient les situations, et elles ont été difficiles en Seine-Saint-Denis, les finances, les emprunts toxiques, les mineurs isolés étrangers, la question de nos collèges et de l'état délabré d'un certain nombre d'établissements, la question des transports, à chaque fois, ce qui le caractérise, c'est une énergie et une capacité à porter une voix, un message très fort, et y compris à s'adresser à tous, les milieux économiques, les milieux les milieux culturels, les milieux sportifs, ceux qui attendent beaucoup de la puissance publique et ceux qui vont bien et qui veulent, un message d'optimisme.
Alors Claude Bartolone est président de l'Assemblée nationale depuis 2012, il n'avait pas délaissé le terrain malgré son mandat à la tête de l'Assemblée nationale.
Ça, c'est justement une de ses forces. Moi, vous savez, j'ai connu Claude Bartolone il y a maintenant nombreuses années, quasiment 20 ans, comme jeune militant socialiste du Parti socialiste de Seine-Saint-Denis. Et déjà, à ce moment, j'étais frappé par le fait que, quelles que soient les responsabilités qu'il exerçait, maire du Pré-Saint-Gervais, ministre chargé de la politique de la ville, président de l'Assemblée nationale, président du département, dans toutes ses responsabilités, il a toujours conservé à la fois un ancrage local et militant très fort. C'est ce qui fait la marque de, c'est sa marque de fabrique, et c'est à la fois une marque de fabrique dont on a besoin à un moment où les citoyens parfois doutent de la politique et des responsables politiques.
Alors on a reçu récemment Geoffroy Didier, conseiller régional sortant Les Républicains, et il a rappelé que la Chambre régionale des comptes avait critiqué la gestion financière de la Seine-Saint-Denis à l'époque où elle était présidée par Claude Bartolone, un argument utilisé par Valérie Pécresse pour mettre en garde les électeurs contre Claude Bartolone. Qu'est-ce que vous répondez à ce sujet?
Ah, je réponds une chose très simple, c'est que avec Claude Bartolone, j'assume tout de cette gestion, parce que à un moment où y compris les politiques, les citoyens doutent de l'action politique, eh bien nous avons voulu montrer sur quelques sujets, la question des finances, la question des mineurs isolés étrangers, la question des collèges, que le rôle des politiques, c'était justement d'interpeller. Et oui, face à nos difficultés financières, nous avons fait un certain nombre d'actions. Nous
avons présenté des budgets, des recettes incertaines,
des budgets en déséquilibre. Et heureusement que nous l'avons fait, parce que c'est parce que nous avons fait ce budget en déséquilibre que l'État aujourd'hui, et la presse en est fait l'écho encore ce week-end, que l'État aujourd'hui encore essaye de trouver les moyens de financer ce qui doit relever de la solidarité nationale. Je n'accepterai jamais que les habitants de la Seine-Saint-Denis finalement doivent payer plus que d'autres au titre de la solidarité nationale, parce que c'est avec ce mode de financement là que nous sommes dans cette situation et que ça nous empêche, y compris de mener toutes les autres politiques publiques que nous avons menées. Heureusement que nous avons fait le budget en déséquilibre, parce que grâce à ça, eh bien, les choses ont commencé de bouger, et j'espère qu'elles vont continuer de bouger.
Stéphane Troussel, vous dirigez le département de Seine-Saint-Denis. Les compétences du département et celles de la région se complètent?
Ah, elles se complètent parfaitement, et heureusement qu'il y a eu, par exemple, un exécutif de gauche à la tête de la région Île-de-France, parce que c'est parce qu'il y avait Jean-Paul Huchon et la majorité socialiste, écologiste, communiste, radicaux, citoyens, que en ce qui concerne les rapports entre la région et les départements de l'Île-de-France, eh bien la gauche à la tête de la région a pris des mesures spécifiques. On a ce qu'on appelle un contrat particulier entre la région et les départements. Chaque département d'Île-de-France est concerné, mais en principe, la région finance à 50-50 un certain nombre d'engagements, 50 pour le département, 50 pour la région. Eh bien, pour prendre en compte la spécificité d'un certain nombre de territoires, le fait que la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune et le plus pauvre d'Île-de-France, eh bien là, c'est un rapport 60-40. Eh bien ça, ça nous aide à financer l'équipement numérique de nos collèges. Ça nous aide à nous engager dans le financement des infrastructures de transport nouvelles. Ça nous aide à financer la rénovation énergétique, écologique d'un certain nombre de nos bâtiments publics. Eh bien ça, c'est la différence. Voilà une différence entre la gauche et la droite. Lutter contre les inégalités territoriales en prenant ce type de mesures financières.
Alors très bien, Stéphane Troussel, vous parlez de la différence entre la droite et la gauche. Et effectivement, on se demande, je dirais, quand on vit en Île-de-France, ce qui différencie véritablement les deux principaux partis politiques sur la gestion de la vie quotidienne. On a du mal à vous imaginer, vous opposer, par exemple, sur la question des transports. La droite et la gauche, vous voulez des transports qui fonctionnent, qui n'arrivent pas en retard, qui ne soient pas bondés aux heures de pointe. Sur la question des transports, par exemple, qu'est-ce qui vous oppose avec Valérie Pécresse ?
Ah bah écoutez, les choses sont simples, parce qu'il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Donc il faut regarder les votes. Madame Pécresse et ses amis ont voté contre le pass Navigo à 70 euros à tarif unique. En Seine-Saint-Denis, ce sont des maires de droite, c'est le maire de Noisy-le-Sec aujourd'hui, qui bloque le prolongement du T1 à Noisy-le-Sec. Voilà des actes concrets. Ce sont les amis de Madame Pécresse qui, pendant des années à la région Île-de-France, lorsque la région Île-de-France était dirigée par ses amis politiques...
Il y a 17 ans.
Ou même encore avant, quand les transports étaient de la responsabilité de l'État en Île-de-France, qui ont refusé pendant longtemps d'investir dans les transports collectifs et ont favorisé le tout routier. Voilà des différences. Alors aujourd'hui, en matière de transport, bien sûr qu'il reste encore du chemin à parcourir, que la situation est encore beaucoup trop compliquée pour les usagers au quotidien. Mais tous les jours, dans des décisions très concrètes, ce sont les amis de Madame Pécresse qui s'opposent aux avancées mises en œuvre par la majorité de gauche.
Qu'est-ce que vous allez faire concrètement là dans les années qui viennent pour avoir des transports en commun qui fonctionnent, qui arrivent à l'heure? Je pense aux usagers du RER qui parfois voient des RER passer sans s'arrêter, ou des RER qui sont bondés, on peut pas rentrer dedans.
Mais encore une illustration de ces différences. Quand président de la République, Nicolas Sarkozy, et son ministre de l'Île-de-France, Monsieur Blanc, avaient imaginé un réseau de transport pour ce qu'on appelle le Grand Paris. Ils avaient imaginé, d'abord, leur projet n'était absolument pas financé, ils avaient imaginé un réseau de transport qui reliait les grands pôles de développement économique, mais qui ne desservait pas les quartiers. Ça, déjà, nous y avons mis fin. Désormais, le réseau du Grand Paris Express, sur les 72 gares, un tiers de ces gares vont être, par exemple, en Seine-Saint-Denis, au cœur des quartiers Clichy-sous-Bois, Sevran,
Blanc-Mesnil. Dans combien de temps?
Bien sûr que c'est long. C'est bien sûr que c'est beaucoup trop long. Mais je dirais que désormais, les choses sont lancées. Il ne se passe pas quasiment une semaine sans qu'en Seine-Saint-Denis, j'inaugure une ligne de transport.
Ça peut être remis en question en cas de changement de majorité?
Ah ben, j'espère que non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la gauche et avec Claude Bartolone, il n'y aura pas de remise en question. C'est-à-dire que même, compris Claude Bartolone a fait une déclaration ce week-end en expliquant qu'il souhaitait qu'une écotaxe soit mise en place, notamment sur la circulation des poids lourds en Île-de-France.
Les poids lourds étrangers.
Les poids lourds étrangers en Île-de-France pour obtenir des recettes nouvelles, justement pour continuer de moderniser, développer le réseau de transport en Île-de-France.
Valérie Pécresse propose de rendre obligatoire la présentation d'une pièce d'identité au contrôleur pour lutter contre la fraude. C'est une bonne idée ?
Mais c'est toujours désespérant de la part d'une responsable politique et de la part d'une ancienne ministre de méconnaître ou de faire semblant de méconnaître à ce point la réglementation. D'abord, un contrôleur de la RATP ou de la SNCF n'a pas de pouvoir pouvoir d'autorité de police. Et donc, ils prennent l'identité ou s'ils en ont besoin. Et ensuite, c'est par le biais d'un officier de police que, comme c'est le cas aujourd'hui, la vérification, le contrôle, voire la sanction est établie.
L'invité de Pluriel est Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Avant la pause, on parlait de la question des transports. Claude Barthelone a décidé de s'attaquer au harcèlement que subissent les femmes dans les transports en commun. De quelle manière ?
Il a raison. Il y a quelque chose d'insupportable pour les franciliennes et les habitantes de ce pays en général. Eh bien, finalement, de se déplacer dans l'espace public ou dans les transports collectifs avec la peur au ventre. Et donc, l'insécurité en général est quelque chose d'insupportable, mais elle est encore plus insupportable quand elle touche finalement ceux qui sont les plus fragiles, donc une femme isolée, une personne âgée, un enfant qui circule dans les transports. Et donc s'attacher à cette question-là, parce que les faits de violence, les faits de harcèlement concernent d'abord les femmes, en particulier dans les transports collectifs. Toutes les enquêtes l'ont prouvé, y compris récemment. Et donc adopter des mesures spécifiques, à la fois en utilisant la technique, vidéosurveillance, renforcement des moyens humains, de la présence humaine dans les wagons, dispositifs particuliers en fin de journée ou dans la nuit, ça me paraît absolument indispensable, parce qu'encore une fois, c'est notre République, ses valeurs et notre capacité à vivre ensemble qui est menacée quand un seul individu, et une femme en particulier, puisqu'elle est souvent plus victime, craint d'utiliser les transports.
Stéphane Troussel, on va faire une parenthèse sur la question des réfugiés. Vous parlez des valeurs de la République, du vivre ensemble. De quelle manière votre département, la Seine-Saint-Denis, a-t-il décidé de répondre à la crise des réfugiés ? Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce que vous êtes en train de mettre en place ?
D'abord, j'ai dit au service de l'État qui organise la prise en charge de ces réfugiés, la disponibilité du département. Nous attendons les modalités, mais nous allons venir en aide à des associations qui seront amenées à prendre en charge des lieux ou à prendre en charge des publics, donc à travers une aide financière. Deuxième chose, tous nos services départementaux, notamment protection de l'enfance, services de protection maternelle et infantile, lieux d'accueil, les services sociaux seront à la disposition des services de l'État pour faire de l'accompagnement, du soutien, y compris de premières visites médicales, et puis identification possible de lieux qui pourraient accueillir des réfugiés. Pour l'instant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a identifié 3 lieux possibles, à la fois un lieu propriété d'une association à Romainville, un lieu qui est une ancienne maison de retraite désaffectée au Rincy, et un lieu propriété départementale qu'il a réquisitionné à Noisy-le-Sec. Et je dois dire, vous cherchiez des différences entre la gauche et la droite, je suis scandalisé par l'attitude d'un ami de Madame Pécresse, le maire de Noisy-le-Sec, qui, au mépris de la loi et comme un vulgaire délinquant, est en train, en ce moment, quelques heures avant que nous nous parlions, s'est permis de poser des scellés sur un bâtiment qui ne lui appartient pas, mais qui avait été, qui est réquisitionné par l'État pour accueillir quelques familles de réfugiés.
Alors c'est insupportable. Vous dénoncez, qu'est-ce que vous allez faire ?
Mais je dénonce et je demande à l'État de prendre ses responsabilités pour sanctionner ce comportement. Ce sont ces mêmes élus de droite qui n'ont pas de mots assez durs pour qualifier des actes délictueux commis par des jeunes ou des moins jeunes et qui emploient des méthodes de délinquants face à un devoir de solidarité organisé par la puissance publique.
Qu'est-ce que vous dites à certains élus qui s'émeuvent aussi de voir le département accueillir des réfugiés alors qu'il y a déjà de nombreuses difficultés sociales dans le département? Il est parfois difficile d'intégrer des étrangers qui sont là depuis plusieurs années. Là, on se dit que peut-être qu'ils pourraient aller dans d'autres départements que chez vous.
Mais de quoi s'agit-il? L'État et les services de l'État, le préfet qui a en charge l'organisation de ce dispositif a été très clair. Il s'agit de lieux de transit qui ont vocation pendant 2 à 3 mois d'accueillir quelques dizaines de réfugiés pour être documentés, renseignés, informés, que leur dossier de demande d'asile soit instruit et qu'à l'issue de cette période, ils ont vocation à être ensuite orientés vers des territoires où notamment la crise du logement est nettement moins tendue qu'en Île-de-France et en particulier en Seine-Saint-Denis. Donc il faut que ces élus cessent de faire peur, de stigmatiser et d'opposer les gens entre eux.
Alors il n'y a pas que des élus qui ont ce type de propos. J'imagine quand vous faites campagne électorale sur les marchés, certains électeurs vous disent mais c'est tellement difficile de trouver un HLM, vous arrivez tout de suite à débloquer des logements pour les réfugiés. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument ?
Mais dans les lieux qui sont débloqués, il ne s'agit pas de logements familiaux, isolés ou de logements sociaux. Il s'agit d'équipements collectifs. Il ne s'agit pas de lieux autrefois dédiés à l'habitation familiale. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Je vous ai cité une maison de retraite, un local associatif ou un local départemental. Donc on n'est pas dans un immeuble d'habitation traditionnelle. On est dans des locaux d'accueil collectif pour une période transitoire. Les seules personnes que j'ai vues se mobiliser, ils l'ont été au Rincy, à l'initiative du maire de droite, ville dans laquelle il y a 1,5% de logements sociaux. 1,5% de logements sociaux quand il y en a en moyenne 35% en Seine-Saint-Denis. Et qui mobilise ses habitants pour s'opposer à l'accueil de quelques dizaines de réfugiés dans une maison de retraite désaffectée depuis 10 ans. C'est un pur scandale.
À propos du logement social, on a vu Patrick Kanner, le ministre de la ville, se mobiliser pour obliger les villes récalcitrantes à construire du logement social. Vous vous félicitez de ce volontarisme ?
Il était temps que l'État se donne des moyens pour, là aussi, faire respecter la loi. La loi, c'est 25% désormais de logements sociaux dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Or, un certain nombre de villes, un certain nombre de maires essayent de faire peur aux habitants en leur expliquant que le logement social, c'est des tours et des bars. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils agitent à travers ça ? Ils agitent surtout les peurs vis-à-vis de ceux qui prioritairement habitent les logements sociaux, c'est-à-dire les jeunes, les pauvres et les enfants d'immigrés. La réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité du logement social dans notre pays, c'est que 70%, je dis bien 70% de nos concitoyens ont accès au logement social. C'est ça la réalité. Et si nous en sommes là, s'il y a une telle crise du logement, en particulier dans des zones comme celle de l'Île-de-France, c'est d'abord et avant tout parce que il y a un certain nombre de territoires qui ne construisent pas assez de logements accessibles à tous.
Mais dans ces villes de droite qui ne veulent pas construire de logement social, est-ce que c'est toujours un refus, je dirais, la peur des populations pauvres, ou bien parfois il n'y a pas de terrain constructible ?
Eh bien écoutez, moi je dis chiche. Si au Rincy ou ailleurs, il y a des terrains constructibles qui appartiennent à l'État, qui appartiennent à la ville ou qui appartiennent à n'importe quel autre propriétaire, le président de la République la semaine dernière à Montpellier à l'occasion du congrès HLM a dit que l'État était prêt à réquisitionner des terrains qui lui appartiennent et à accorder une décote de 100%, donc quasiment la gratuité, à un bailleur qui serait prêt à construire. Eh bien moi, je préside un office public de l'habitat en Seine-Saint-Denis. Je dis chiche, si l'État est prêt à me désigner un terrain qui est de sa propriété et qu'elle me le remet à disposition, nous irons construire au Rincy sans aucune difficulté.
Avec ou sans l'accord du maire ?
Le président de la République et le ministre a indiqué que dans ce cas-là, le préfet était prêt à prendre la signature du permis de construire.
Alors on va changer de sujet, on va un peu parler de stratégie aussi politique, puisque pour diriger la région, il faut tout de même gagner ces élections. On voit Jean-Christophe Cambadélis appeler à l'unité à gauche. Il va organiser un référendum en mettant des urnes, notamment dans les marchés. Pourquoi vous souhaitez l'unité de la gauche dès le premier tour ?
Il faut l'unité de la gauche la plus large possible et le plus vite possible. Le mieux, c'est dès le premier tour. Et si ce n'est pas possible au premier tour, en tout cas, il faut qu'elle soit assurée au deuxième tour. Regardez ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis récemment.
À Noisy-le-Grand.
À Noisy-le-Grand, par exemple, la gauche est majoritaire à 54% et parce que la gauche est divisée au deuxième tour, eh bien la ville bascule à droite à quelques 33 voix. C'est insupportable. En Seine-Saint-Denis, nous avons rassemblé la gauche et les écologistes au premier puis au deuxième tour, et le département a conservé eh bien sa majorité de gauche. À la région Île-de-France, aujourd'hui, il y a des vice-présidents socialistes, communistes, radicaux, citoyens, écologistes qui assument le bilan et les projets de la gauche rassemblée.
Oui,
et
mais, donc, pour, il, mais pour, se rassembler, chose, mais pour oui, se rassembler au premier tour des élections régionales, encore faut-il se rassembler sur un projet,
bien
Stéphane Roussel.
Mais enfin, le meilleur projet que nous avons, il est dans l'action que nous menons ensemble. Et donc, aujourd'hui, il y a autour des présidents de régions socialistes, des vice-présidents socialistes, des vice-présidents communistes, des vice-présidents écologistes, radicaux, citoyens. Qu'est-ce qui nous empêche, sur le fond de l'action locale que nous menons ensemble, de poursuivre cette action?
On se souvient que pour la question du pass Navigo à tarif unique, ça fait partie des sujets qui ont été négociés entre le Parti Socialiste et les écologistes, entre les deux tours.
Bien sûr.
Donc c'était utile pour les écologistes d'être présents au premier tour.
Mais bien sûr, mais nous l'avons mis en œuvre ensemble. Et donc, en tout état de cause, si c'est possible dès avant le premier tour, c'est mieux. Si ça doit se préparer pour le deuxième tour, c'est maintenant que nous devons le dire ensemble, parce que je crois que nos électeurs, que ce soit des électeurs socialistes, que ce soit des électeurs écologistes, que ce soit des électeurs communistes ou du Front de Gauche, ils ont besoin de savoir qu'ensemble, nous nous retrouvons au deuxième tour pour mener une action qui leur est utile et nécessaire.
Ce qui s'est passé à Noisy-le-Grand, ça doit alerter les électeurs de gauche. Je rappelle qu'en 1977, la Seine-Saint-Denis comptait 34 communes de gauche pour 6 qui étaient à droite. Depuis la victoire de la droite à Noisy-le-Grand, la droite dirige 21 villes contre 19 pour la gauche. Vous êtes en train de dire aux électeurs de gauche, faites attention, la région peut basculer à droite.
Lorsque la gauche est divisée, elle perd. Lorsqu'elle est rassemblée, elle gagne. Encore une fois, à Noisy-le-Grand, 54% des électeurs ont exprimé leur attachement aux valeurs de la gauche et des écologistes. Et ils se retrouvent désormais avec une équipe de droite. Donc il y a quelque chose d'insupportable. En Seine-Saint-Denis, il y a eu une majorité de gauche au deuxième tour des élections départementales, c'est parce qu'entre les deux tours, au premier tour, le Parti Socialiste et les écologistes étaient rassemblés, et entre les deux tours, il y a eu un rassemblement impeccable, un désistement impeccable avec le Front de Gauche.
Stéphane Roussel.
Mais en même temps, j'ajoute que le rassemblement de la gauche et des écologistes, ça ne se décrète pas, ça se construit en permanence, sur des projets, sur des actions, sur des compromis. Il faut que chacun, avec ses spécificités, se retrouve dans l'action qui est menée.
Mais est-ce qu'on peut parvenir, Stéphane Roussel, à un compromis au niveau local quant au niveau national, le Front de Gauche ou Europe Écologie ne se retrouvent pas dans la politique incarnée par François Hollande, Emmanuel Macron et Emmanuel Valls?
Eh bien écoutez, d'abord, on a été capable de le faire en de multiples occasions. Il y a eu bien des débats entre le Parti communiste et le Parti socialiste dans les années 70 et 80, et ça ne nous empêchait pas de nous rassembler sur des projets locaux. Donc je crois que ça doit être le cas et bien évidemment ça se fait en permanence, ça se fait dans la manière dont on anime les majorités à l'échelon local, ça se fait à travers l'action que nous menons et ça se fait à travers les projets que nous portons ensemble devant les électeurs. Et je crois que ce qui rassemble les socialistes, les communistes, les écologistes, les radicaux, les citoyens, est bien plus grand que finalement ce qui nous divise aujourd'hui à l'élection dans les enjeux locaux.
Vous êtes inquiet de la percée, semble-t-il, du Front National en Île-de-France? On voit quand même que le Front National est en troisième position.
Bien
dans
évidemment,
les sondages,
bien ouais. évidemment, et cette rentrée politique marquée par à la fois ces thèses, ces résultats de l'extrême droite qui sont insupportables. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est l'extrême droitisation de la droite. Quand j'entends ce week-end une ancienne ministre de la République faire les déclarations, je pense donc à Madame Morano qui explique que la France est un pays de race blanche, mais mais on n'y croit pas. Et que Madame Pécresse, qui est son ancienne collègue au gouvernement, candidate de la droite dite républicaine en Île-de-France, n'a pas un mot de dénonciation de ces propos-là. Mais enfin, comment est-ce acceptable? C'est nos amis, c'est nos concitoyens originaires des Dom-Tom qui doivent apprécier ce type de phrase. Donc il est urgent qu'un cordon sanitaire, comme avait su l'établir le président Chirac il y a quelques années, que à nouveau, ceux qui se réclament des républicains établissent une frontière pour que ces idées nauséabondes ne les envahissent pas et finalement contaminent toute la droite. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui.
Vous redoutez de voir une partie de la droite s'allier au Front National?
Ah ben, il y a toutes les craintes peuvent être exprimées. Si ce n'est l'alliance électorale, c'est au moins les messages, les signaux, les discours qui sont envoyés. Hein, quand j'entends, mais même la candidate dite des républicaines, Pécresse, quand elle fait ses déclarations sur les réfugiés, quand elle fait ses déclarations sur l'insécurité dans les transports, quand elle laisse encore une fois dire sa collègue Morano sans un seul mot de dénonciation. On voit bien qu'il y a là la volonté de préparer une forme d'alliance au moins électorale et politique, si ce n'est en termes de liste entre les deux tours.
Ça a quel résultat, je dirais, en Seine-Saint-Denis, cette surenchère à droite, cette façon d'aller vers l'extrême droite dont vous venez de parler?
Ah bah c'est la censure culturelle à Blanc-Mesnil, c'est la mobilisation contre l'action sociale à Saint-Ouen ou à Aulnay-sous-Bois, c'est les campagnes électorales scandaleuses qui ont été menées à la veille des élections municipales contre les actions en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à Aulnay-sous-Bois, à Blanc-Mesnil ou à Bobigny. Voilà les conséquences de la lepénisation des esprits dans la droite républicaine. Donc il est urgentissime que des grandes figures de la droite, pour qui moi j'ai du respect, marquent à nouveau un coup d'arrêt et une ligne que les candidats, les élus de la droite dite républicaine ne doivent pas franchir, sinon ils feraient perdre une fois encore à la droite ses valeurs républicaines, justement.
Stéphane Troussel, j'en reviens aux élections régionales avec une autre compétence. On a parlé de la question des transports. La région s'occupe des lycées. Vous dirigez le département de Seine-Saint-Denis et vous avez en charge la question des collèges. De quelle manière la région peut-elle favoriser la réussite scolaire?
Je dirais d'abord en poursuivant sa politique de rénovation, d'entretien et de construction de lycées. On sait que dans les années qui viennent, nos enfants qui tapent à la porte des écoles élémentaires, des collèges, vont être ceux qui arrivent demain dans les lycées. Et donc, il y a une absolue nécessité de continuer de mettre le paquet, voire de démultiplier l'action pour rénover, de construire un certain nombre de lycées supplémentaires. Et deuxième aspect, je crois que comme nous l'avons fait par exemple dans les collèges de Seine-Saint-Denis, il faut notamment au moment où il y a des réformes dans l'éducation nationale avec une action éducative beaucoup plus transversale entre les différentes disciplines, et bien que la région s'engage encore plus à développer des projets, à soutenir des projets de l'action artistique, culturelle. Ce que nous avons fait par exemple à travers nos parcours culture et art au collège, et bien il y a un beau terrain d'expérimentation que la région pourrait généraliser dans les lycées.
Comment s'est passée la rentrée scolaire en Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, puisque l'année dernière, on se souvient qu'il manquait beaucoup d'enseignants. Comment ça s'est passé cette année?
D'abord, en ce qui concerne le département et pour l'action du département, nous avons continué. J'ai inauguré il y a quelques jours au Bourget, en Seine-Saint-Denis, le 16e collège neuf, parce que je suis déterminé à poursuivre notre effort en matière de rattrapage en ce qui concerne le bâti. Mais du point de vue des enseignants et de l'éducation nationale, j'ai le sentiment que, et si j'écoute tous les acteurs de terrain, professeurs, direction scolaire, parents d'élèves, que cette année, la rentrée scolaire en Seine-Saint-Denis s'est bien mieux passée que la précédente et celle encore précédente.
Il n'y a pas eu de recrutement d'enseignants au rabais, comme on a pu le voir dans la presse?
En tout cas, les actions spécifiques que nous avions demandées à la ministre de l'Éducation nationale, qu'elle avait annoncées en novembre de l'année dernière, manière, un concours supplémentaire, des postes supplémentaires, des actions, y compris pour avoir plus de territoires concernés par l'éducation prioritaire, eh bien, commencent à porter leurs fruits. Si je fais le tour, j'ai fait le tour des différents établissements, non, il n'y avait pas globalement, bien sûr, il y a des ratés ici ou là, mais il n'y avait pas globalement d'enseignants non nommés ou de postes non pourvus. Donc c'est une meilleure rentrée, la meilleure depuis bien longtemps, mais il faut poursuivre ses efforts.
L'invité de Pluriel est Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors Valérie Pécresse propose de transférer le siège du conseil régional en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne. Est-ce que c'est une bonne idée ou bien est-ce que vous souhaitez que votre département abrite le conseil régional ?
Moi, je dirais d'abord, Madame Pécresse, que pas de gadget dans cette campagne. Donc, moi, j'ai aucune difficulté, bien évidemment, pour accueillir tous les sièges sociaux, tout que ce soit d'entreprise ou d'institution, mais pas de gadget. Je préfère que la région Île-de-France, elle continue, par exemple, son action différenciée en fonction de la richesse des territoires. Le fait que la région Île-de-France, elle finance 60% des équipements qui font l'objet d'un accord entre la région et le département, ça me paraît être une mesure très importante. Et je veux pas d'un gadget, je veux pas seulement d'une institution. Si des locaux de la région peuvent être en Seine-Saint-Denis, pourquoi pas. Mais je souhaite surtout que le rôle de la région, ce soit d'agir contre les inégalités territoriales, sociales, financières, fiscales qui existent. Il y a quelque chose d'insupportable que les amis de Mme Pécresse dans les Hauts-de-Seine continuent de refuser la solidarité, de refuser la péréquation.
Stéphane Troussel, la droite accuse la gauche d'avoir acheté des bâtiments coûteux pour abriter les vice-présidents du conseil régional dans les beaux quartiers de Paris. Est-ce que le prochain exécutif, s'il est dirigé par Claude Bartolone, sera plus économe avec l'argent public ?
Bon, d'abord, visiblement, je sais bien que pendant les campagnes électorales, on peut tout se permettre, mais elle oublie que la région Île-de-France, elle a d'abord été dirigée par Monsieur Giraud et quelques autres présidents de droite, à un moment où la région Île-de-France, elle s'illustrait davantage dans les pages des faits divers, notamment pour les marchés truqués des lycées, plutôt que pour sa vertu et sa transparence. Donc ce qui est sûr, c'est que comme il l'a fait en Seine-Saint-Denis ou à la tête de l'Assemblée nationale, oui, Claude Bartolone prend un certain nombre d'engagements très précis pour favoriser à la fois une gestion économe dans une période d'argent public rare. Chaque euro dépensé doit être un euro utile. Eh bien, ce qu'il a fait à la tête de la Seine-Saint-Denis ou à la présidence de l'Assemblée nationale, j'ai aucun doute qu'il l'engagera également à la tête de la région de France.
Stéphane Troussel, Anne Hidalgo envisage de construire le village olympique des Jeux de 2024 si Paris était choisi par le comité olympique en Seine-Saint-Denis. Dans quel secteur de votre département on pourrait construire ce village olympique ? J'imagine que vous êtes d'accord avec cette proposition.
Alors, avec Anne Hidalgo, nous travaillons de manière très étroite sur ce dossier de la candidature aux Jeux olympiques puisque dès le début, elle a souhaité effectivement constituer un axe très très fort Paris Seine-Saint-Denis. Et donc oui, maintenant il y a à peu près, ce n'est plus un secret, un accord de tous pour dire que à la fois le village olympique mais aussi le village des médias seront en Seine-Saint-Denis. Et donc il y a désormais il n'y a plus qu'environ 3 sites qui sont en compétition. L'île Saint-Denis Pleyel du côté du Stade de France, Pantin en bordure de Paris du 19e et puis l'aire des vents du Nil-le-Bourget, la Courneuve. Et donc il y a actuellement une expertise approfondie, avantages, inconvénients, coûts de chacun de ces sites pour déterminer quelle est la meilleure option avec un seul objectif qui doit tous nous rassembler, c'est de faire gagner cette candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Et ça, c'est un des éléments qui peuvent faire basculer le comité olympique en faveur de Paris ?
Alors je crois que c'est vrai que le CIO désormais est sensible à l'idée d'héritage pour les territoires et le fait que une candidature aux Jeux Olympiques c'est pas seulement un moment un coup d'éclat mais c'est véritablement une candidature qui permet à des territoires, à des habitants, à toute une population non seulement de vibrer, de se mobiliser autour des valeurs de l'olympisme, des valeurs sportives, mais aussi d'avoir un héritage pour le territoire en termes de transport, en termes d'équipement, en termes de logement, et que la présence des Jeux, elle change concrètement la vie quotidienne d'un territoire tout entier.
Est-ce que la facture ne risque pas d'être trop élevée pour votre département, pour la France en général, parce qu'on voit qu'avec certains pays, effectivement, ça a coûté plus que ça n'a rapporté les Jeux Olympiques ?
D'abord, nous sommes tous là aussi rassembler à la fois les sportifs, les collectivités locales, l'État, pour dire qu'il nous fallait des jeux économes et des jeux responsables. Des jeux économes parce que, dans une période d'argent public rare, il faut faire attention à chaque euro dépensé et donc il ne faut pas avoir de projets superflus ou de projets mégalos. Et puis responsables parce que à un moment ou dans quelques semaines encore, là en Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis va être sur les feux de l'actualité avec l'organisation de la conférence sur le climat, COP21 au Bourget, on doit apporter la preuve que les choix que nous faisons en matière de transport, en matière d'équipement, en matière de logement, sont responsables avec des choix et des aménagements durables. Donc, c'est deux préoccupations très fortes, à la fois des organisateurs, mais aussi du CIO.
Une parenthèse sur cette COP21, la vie des Franciliens et notamment des habitants de la Seine-Saint-Denis ne sera pas trop bouleversée par cette grande réunion qui va accueillir des chefs d'État du monde entier ?
En tout cas, c'est notre préoccupation. Et vous parliez de Claude Bartolone, il a eu l'occasion récemment encore d'attirer l'attention sur cette question. Bien évidemment, il faut que les organisateurs, les services de l'État, le secrétariat général qui pilote l'organisation de cette manifestation, les services départementaux pour ce qui leur revient, soient mobilisés pour faire en sorte que à la fois les questions de circulation routière, les questions de sécurité, l'offre de transport collectif, tout soit mis au point pour permettre que la vie quotidienne des habitants ne soit pas trop perturbée par cet événement d'ampleur internationale.
Vous demandez que les transports en commun soient gratuits pendant la COP21 ?
Déjà, il faut que l'offre de transport soit renforcée pour permettre qu'un maximum de participants à cette initiative utilisent les transports collectifs plutôt que la route et les autoroutes. Et puis, qu'il y ait un effort sur la tarification pour inciter les usagers à, pendant cette période, laisser leur voiture pour utiliser les transports collectifs.
Tout à l'heure, Stéphane Troussel, vous avez évoqué la question des réfugiés. Un mot peut-être sur la situation politique en Syrie. On voit les grands de ce monde commencer à se rapprocher de Bachar el-Assad. Les dirigeants de l'opposition modérée ont le sentiment d'être un peu mis de côté alors qu'ils étaient jusque-là des interlocuteurs légitimes de l'Occident. Est-ce qu'au nom de la lutte contre Daesh, il va falloir accepter de collaborer avec Bachar el-Assad ?
Ceux qui fuient les bombes aujourd'hui depuis la Syrie ne regardent pas d'où les bombes et d'où les tirs viennent. Ils viennent de manière indéfinie et d'abord du régime de Bachar el-Assad et de Daesh. Donc il y a quelque chose d'insupportable à devoir finalement trier et de déterminer quelle est la bombe la plus horrible. Donc nous sommes dans une situation dramatique et donc tout ce qui peut être fait à la fois pour mettre hors d'état de nuire, ceux qui pourchassent, ceux qui tuent, ceux qui violentent les populations de Syrie, d'Irak et de toute cette région, soient mis hors d'état de nuire. Mais en même temps, il y a aussi à rechercher sur place, et vous comprenez bien que je pense qu'à la fois les diplomates, les militaires, les dirigeants de ce monde ont des éléments dont on n'a pas les uns et les autres connaissance forcément de manière précise ici, mais trouver tous les éléments sur place qui permettent d'apporter la réponse coordonnée pour sortir au plus vite de cette situation dramatique. Donc, il n'y a pas de classement à faire dans l'horreur. Les 200 000 morts qu'a le régime de Bachar el-Assad lui sont totalement et personnellement imputables, mais bien évidemment qu'il faut identifier les éléments modérés ou les éléments raisonnables de ce régime pour entrevoir une solution de transition politique.
Le mois prochain sera marqué par un triste anniversaire, la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois il y a 10 ans. C'est un anniversaire évidemment très triste que vous allez commémorer.
Nous allons réfléchir à la manière dont commémorer ce triste anniversaire, à la fois pour dire que nous n'oublions pas, mais aussi pour dire quand j'entends un ancien chef de l'État recommencer à nouveau à stigmatiser les banlieues comme il l'a fait dans une réunion la semaine dernière et à nouveau à demander finalement à la banlieue, au quartier populaire de se taire ou de rendre des comptes, il est plus que temps de faire à nouveau entendre une parole politique, une parole de la société civile pour dire ce que ces territoires, ces habitants apportent au pays tout entier. Moi j'ai la conviction que comme on avait pu le dire il y a quelques années, nous ne sommes pas un problème pour le pays tout entier. Nous sommes une partie de la solution aux problèmes du pays. Parce que quand on a la chance, comme les territoires populaires, d'être des territoires souvent jeunes et divers, ouverts sur le monde, ça nous donne certainement dans le monde qui vient, qui va être un monde d'innovation, de mobilité, un temps d'avance pour permettre au pays tout entier de se redresser.
Merci Stéphane Troussel. Je rappelle que vous êtes président socialiste du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Merci, bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.